Eh bien, je pense que nous allons changer de monde, changer de millénaire, puisque nous allons parler du Coran, dont la datation est celle du 7e siècle de notre ère. Alors, en ce qui concerne le Coran, beaucoup de problèmes se posent, des problèmes de lecture de différentes façons, et notamment de lecture historique. Et je dirais que, par rapport à ces lectures historiques, des problèmes méthodologiques majeurs se posent, donc je vais en parler, aussi bien dans le monde musulman qu'entre les islamologues d'aujourd'hui. Ces problèmes, je les résume en une phrase, ce sont des problèmes de confusion des périodes. Or, si on mélange les corpus et les périodes, on tombe dans ce qui est un défaut majeur en histoire, on tombe dans l'anachronisme. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est de remettre les choses, les idées, les croyances à leur place. Et en ce qui concerne le Coran, c'est loin d'être fait. Représenter les dieux, représenter les hommes, le mot « représenter » peut s'entendre de différentes façons. Dans les sociétés que l'on peut dire iconiques, représenter, ce peut être effectivement le fait de produire des images visibles, des images concrètes, celle de la statuaire, celle de la fresque, ou une imagerie plus modeste sur d'autres supports. Mais dans des sociétés autres, représenter, ce peut être simplement le fait de dire. Dire pour fabriquer des images mentales, autrement dit des représentations. Il est en effet des sociétés plus auditives que visuelles. Des sociétés où c'est le seul discours qui fait image. Certaines sociétés du désert et du modèle nomade semblent être de celles-là. Le fabricant de discours, souvent, mais pas seulement, le poète, remplace alors le fabricant d'images, qu'il s'agisse de l'image des dieux, de celle des hommes ou de celle de leur monde environnant. L'imaginaire coranique, je parle du corpus du Coran lui-même et certainement pas des corpus postérieurs, que ce soit la tradition prophétique ou autre chose, qui sont postérieurs facilement de 2 siècles. L'imaginaire coranique, donc, en soi, semble se rattacher par de nombreux traits au paradigme d'une société d'audition plus que de représentation visuelle. À l'intérieur même de son discours, la rareté des visions coraniques en témoigne à l'évidence. Elles ne sont que 2. L'une dans la sourate 81, 18, 26. Vous retrouverez les références dans les articles, dans la publication écrite de cette communication. L'autre, de reprise du même thème, dans la sourate 53, 4, 18. On peut à la rigueur leur ajouter l'énigmatique verset initial de la sourate 17, qui est dite du voyage nocturne, dont vous avez sans doute entendu parler, l'Isra, qui débouche sur la vision non décrite de signes divins, ayat, qui sont montrés à un voyageur qui serait Mahomet. Mahomet serait alors discrédité par les siens qui lui reprochent sa prédication, non accompagnée de faits extraordinaires qui authentifieraient ses dires. On peut penser que cet étrange voyage cherche à se calquer sur le missionnement de Moïse tel que se le représente le Coran, notamment dans 28, 29, et le lien plus précis, c'est dans 28, 46. Il est dit en effet dans ce verset, « Tu n'étais pas sur le flanc du mont, le Tour, la montagne près de laquelle Moïse, selon le Coran, a reçu sa mission qu'il envoyait affronter Pharaon. Tu n'étais pas sur le flanc du mont lorsque nous appelâmes Moïse, mais par une bienveillance de ton Seigneur, tu es là pour avertir les tiens. » Quant aux 2 autres visions, elles sont un petit peu plus explicites. La plus ancienne, celle de la sourate 81, cherche à représenter l'apparition fugitive à l'horizon de l'aube d'un porteur de messages surnaturel qui est appelé Rasoul. Donc quand on rencontre le mot Rasoul, qu'on trouve un peu partout, Mohammed Rasulullah, c'est pas forcément un humain, hein, ça peut être un intermédiaire surnaturel. Donc cet intermédiaire surnaturel qui authentifie la parole entendue par celui qui n'est encore présenté que comme un membre ordinaire de sa tribu et pas du tout comme un prophète. Il est appelé dans cette sourate 81 « Sahibukum », c'est-à-dire « votre compagnon ». Donc il n'a pas de statut prophétique à ce moment-là. C'est une manière de dire que la voix entendue n'émane pas d'un djinn maléfique que l'on devrait éloigner à coup de pierre. Et l'éloignement à coup de pierre, c'est le rajm, c'est ce terme qu'on galvaude aujourd'hui en lapidation, en pensant que c'est un châtiment qui peut s'appliquer à un humain. Le rajm coranique, c'est l'éloignement d'un être surnaturel qui ne doit pas entrer dans l'espace des hommes. En effet, les djinns étaient censés connaître les secrets de l'invisible et de l'avenir attendu, le raïb, et le Coran cherche d'emblée à se distinguer, à distinguer le compagnon dont on a parlé, d'une inspiration djinnique. La vision de la sourate 83 est du même type, elle est simplement un peu plus développée. Par rapport à ces rares visions, qui sont en fait, pour deux d'entre elles, liées au fait de tenter d'authentifier une audition, donc une vision pour une audition, il faut évidemment se garder de se laisser aller aux délices de l'extrapolation, comme le font les exégètes musulmans des âges classiques. Il ne faudrait pas croire y reconnaître une figure que le Coran ignore à peu près totalement. Je veux parler de l'illustre Gabriel, devenu si célèbre dans le monde musulman qu'après le Coran, on le voit partout aux côtés de Mahomet. Dans le Coran, ce n'est pas du tout le cas. La situation est paradoxale, car le Coran ne nomme Gabriel que tardivement, en seulement trois occurrences, deux successives passablement obscures dans la sourate 2, 97-98, et un troisième passage, curieux, dans la sourate 66, qui le montre prêt à intervenir dans un conflit conjugal qui secoue la famille de Mahomet à Médine. Disons pour conclure sur le parallèle entre audition et vision que le contraste est particulièrement frappant entre le corpus biblique qui regorge, vous me contredirez si je dis des bêtises, de voyants et de visions, en tout genre, et le Coran qui passe son temps en écoute. Pour aller au-delà du texte et tenter de décrypter ce qui relève certainement d'un espace imaginaire et au-delà encore d'un espace social, disons que cela peut renvoyer aux conduites et aux modes de représentation des hommes du désert. En effet, les Bédouins, lorsqu'ils sont en approche nocturne d'un campement inconnu, se gardent bien de se montrer avant de savoir qui occupe les lieux. C'est pour eux une question de survie. Qui sait si un groupe avec lequel ils ont une affaire pendante de talion, le Qissas coranique, sourate 2, verset 178, ne se trouverait pas installé là qui pourrait leur chercher querelle. C'est que la préoccupation majeure de la société dont est supposée émaner la parole coranique consiste à se demander constamment comment préserver la vie des hommes des tribus, de leurs familles, comment prolonger cette vie dans les meilleures conditions possibles, à la fois pour continuer à vivre au présent et pour donner un avenir au leur. Il ne fait pas de doute que le religieux, de quelque manière qu'il se soit exprimé, et dû prendre en compte ce paramètre incontournable. Que ce soit dans ou avant le premier islam, du moins tant que l'islam est resté en relation directe avec cette société, c'est-à-dire pendant près de 150 ans, jusqu'à la chute du califat Omeyyade en 750. Il y a là forcément une continuité sociale et pas du tout la rupture que l'on proclame entre anté-islam, la fameuse période de la prétendue ignorance, jahiliya, et islam, avec cette illusion magnifique qu'on trouve dans le Coran, selon laquelle l'islam baigné du nour, la lumière lunaire, ferait sortir les hommes de tribu des ténèbres zulumat. Comme en beaucoup d'autres cas, la formule vaut la peine que l'on s'y arrête. En effet, les ténèbres, Zulumat, ne renvoient pas, comme on pourrait le croire innocemment, aux simples ténèbres de la nuit, mais très précisément aux ténèbres de la nuit sans lune. Cette image coranique ne se comprend d'ailleurs que si on aperçut ce que l'arabe du Coran, qui est d'abord la langue des tribus d'Arabie, entend par le Nour. C'est cette lumière de clarté froide et de guidance qui s'oppose à la fois aux ténèbres de la nuit sans lune, où se perd la guidance, et plus encore au Duha, la lumière brûlante du soleil. Alors là, on n'est pas du tout dans le contexte d'Akhenaton. La lumière brûlante du soleil montant au zénith, synonyme de mort assurée, si on ne parvient pas à s'en protéger. L'expression arabe, d'ailleurs, « daha zilluhu », son ombre a été exposée au soleil montant au zénith, veut tout simplement dire « il est mort ». Cela explique d'ailleurs aussi pourquoi l'enfer coranique, dont le thème est évidemment emprunté au corpus biblique, doit se naturaliser pour pouvoir s'intégrer dans l'imaginaire local. Le feu coranique de l'enfer, le nar, n'est pas un feu de flamme, contrairement à ce que vont suggérer plus tard des représentations musulmanes postérieures, mais qui sont en rupture avec cet imaginaire premier, comme vous en avez le témoignage, par exemple, dans les enluminures du Miraj Name, le superbe manuscrit du XVe siècle, manuscrit timouride, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Le nar coranique n'a rien à voir avec ces représentations d'enfer de flamme. Le nar coranique, c'est sans aucune ambiguïté le feu solaire d'un désert de plein été. On en reparlera tout à l'heure en analysant une autre formule. Il va de soi que le Coran manipule ces images mentales qui sont celles de son terrain pour mieux donner force évocatrice à ses adhésions. Mais ce n'est pas une raison pour se laisser prendre à ce jeu de dupes. Je me souviens ainsi d'un véritable passage d'anthologie qui est à retrouver dans un petit livre paru au milieu du XXe siècle dans une collection pour étudiants. Son auteur, un historien, dont les travaux sont par ailleurs parfaitement respectables, définissait ainsi l'anté-islam. Je cite « Cette période d'ignorance, donc il reprenait le topos coranique, ou plutôt, ajoutait-il, de sauvagerie, où les hommes s'abandonnaient sans retenue à leur penchant. » J'ai longtemps fait étudier cette, pour la critiquer, cette formule à mes étudiants, jadis. Il y a là manifestement de la part de ce savant un dérapage personnel et l'absence de prise en compte du moindre facteur sociétal. Le cliché coranique de la prétendue ignorance de l'anté-islam est repris dans son texte, non pour être déconstruit, comme cela devrait être, mais au contraire, pour être surchargé d'une idéologie nouvelle. Je ne vous donne pas la référence, si vous cherchez, vous la trouverez. Revenons donc à cette société de l'écoute, à laquelle le Coran nous semble si fortement faire écho. On est en Arabie occidentale au début du 7e siècle, donc de notre ère. Chacun sait que la Mecque est la ville d'origine de l'islam, avant qu'il ne se transfère, au bout d'une douzaine d'années, datation présumée, on n'y était pas, dans la grande oasis de Médine, à près de 450 km au nord, soit une semaine de marche au pas des chameaux. Je ne souscris évidemment pas aux élucubrations de certains qui délocalisent l'islam hors d'Arabie, oubliant qu'une histoire, celle-là vérifiable, nous montre des dynasties d'origine indubitablement mécoise, des Omeyyades aux Abbassides, qui se déchirent pour le pouvoir pendant au moins 2 siècles sur les terres du Proche-Orient, du Proche et du Moyen-Orient et sur celles de l'Iran, donc au vu et au su de tous. On ne peut pas dire que ces gens ne sont pas des Mécois d'origine. La Mecque, qui est donc d'Arabie, est une cité singulière. Cela tient au fait majeur qu'elle n'est pas une oasis. Écartée vers l'ouest de la grande voie de communication qui relie le sud au nord de la péninsule arabique, la fameuse ancienne route de l'encens qui n'existait plus à l'époque en tant que route internationale, dont il faut souligner que la cité mécoise n'avait jamais constitué l'une des étapes, contrairement à ce qu'on a longtemps écrit, moi-même je crois l'avoir fait à la suite de mes maîtres, mais je suis revenu dessus, il faut reconnaître ses erreurs, La Mecque est enserrée dans un réseau de hauteurs arides entre la haute chaîne volcanique côtière, vous ne le saviez peut-être pas, mais toute la bordure de la mer Rouge est parsemée de volcans, très haut, ça peut atteindre 2000 mètres du côté de Médine et plus de 3005 au Yémen. Donc cette chaîne volcanique côtière et la Mecque est enserrée dans des chaos infranchissables de lave solidifiée, qu'on appelle les harras, qui obligent à de longs contournements. On ne peut absolument pas traverser ces chaos basaltiques. La cité nonoasienne doit son existence à la découverte inopinée d'un point d'eau dans un bas-fond, lieu de confluence de plusieurs vallées d'Oued. Le Coran parle d'ailleurs du ventre de la Mecque, comme d'un réceptacle qui reçoit les eaux, Batna, Makka. Étant donné cette topographie, il n'est pas étonnant qu'il s'agisse d'un lieu inondable. La dernière inondation date de 1941, vous trouverez des photos sur Internet. Elle montre des gens qui nagent dans l'eau qui entoure de toutes parts l'édifice. C'est manifestement à la présence de ce point d'eau inattendu dans un environnement aride que tient la sacralité du lieu. Abraham, que le Coran fait intervenir comme fondateur de la Kaaba, mais seulement tardivement, au plus fort du conflit avec les Juifs médinois, Abraham n'y est évidemment pour rien. En tout cas, d'un point de vue historique et anthropologique. L'invention du point d'eau mécois est de datation indéterminée. On sait seulement que l'implantation sédentaire adjacente est déjà connue de Ptolémée à la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne. Aucune prospection archéologique n'est possible à ce jour, mais peu importe. Il suffit de lire le paysage. Ici, au Collège de France, vous avez un grand spécialiste du paysage, je crois, des paysages, pour comprendre la fonctionnalité du lieu et les contraintes matérielles auxquelles étaient soumis ses habitants. Il est clair que la divinité locale était vue comme devant se montrer particulièrement efficace pour y faire perdurer la vie. C'est en cela que nous avons évoqué le nécessaire pragmatisme du divin. Le Coran nous le déclare d'ailleurs sans embâche dans ce qui semble constituer une proclamation très ancienne, pour ne pas dire une strate quasiment première de son discours. Je dis proclamation ancienne car le passage considéré, celui de la sourate 106, ne comporte encore aucune thématique empruntée d'allure biblique. On a l'impression d'être en présence d'une couche primaire du discours coranique. Cette brève sourate de quatre versets très courts en appelle nommément au Quraysh, la tribu mécoise de l'époque qui était celle de Mahomet, pour leur lancer l'invite suivante. Je traduis. Qu'ils, les Quraysh, rendent culte au Seigneur de cette demeure. Falyabudu Rabba Had al-Bayt. Je traduis le mot bayt par demeure, comme référent à la racine arabe bayata, qui renvoie dans la société des hommes à un lieu où un groupe de parenté se trouve réuni pour y passer la nuit. Dans la socialité à laquelle se rattache le Coran, le bayt est ainsi le lieu le plus étroit du vivre ensemble, la cellule première de l'emboîtement du groupe tribal, et donc aussi le lieu de la solidarité maximale. Le divin associé à ce lieu partage l'espace du groupe qui y réside, il y est en quelque sorte socialisé. Il relève donc à son niveau des relations de solidarité et de protection mutuelle qui régissent les rapports des membres du groupe entre eux. Cette représentation d'une présence contiguë et solidaire de l'humain et du divin se retrouve d'ailleurs dans d'autres mots qui s'inscrivent également dans une spatialité partagée. C'est plus que tout autre le cas de la racine Walaya, qui joue sur la palette de tous ceux, humains ou dieux, qui partagent un même espace et qui, de ce fait, traduisent en alliance Wala leur relation de proximité. Le Wali, terme que l'on trouve évidemment dans le Coran, désigne à la fois le parent humain, qui est au sens propre un proche, et l'allié protecteur divin. C'est le même mot. Le mot Wali est évidemment l'un des noms d'Allah. Le Wali divin, localisé dans l'espace du groupe qu'il protège, fait de cet espace un haram, lieu protégé et défendu contre toute intrusion non autorisée. Le terme est là encore partagé entre l'humain et le divin, car le haram désigne moins en soi un espace sacré, c'est la traduction courante, que d'abord un périmètre de sécurité. Celui qui s'instaure autour d'une cité, c'est le cas à la Mecque, dont les ansab, pierres fichées en terre, délimitent jusqu'à aujourd'hui symboliquement le territoire protégé. Mais c'est aussi le cas de l'espèce contiguë d'un campement nomade temporaire alentour d'une tente dans le désert. On voit bien qu'en fait, rien n'échappe à la thématique de la proximité. Elle n'est pas forcément charnelle, il n'y a pas d'apparentement de l'humain et du divin. C'est la proximité en tant que telle qui régit le vivre ensemble dans cette société et lui impose ses règles. Du coup, il convient de noter que les dieux récusés sont eux aussi rattachés au paradigme du proche. Ne sont-ils pas nommés du même mot « aoulia » pluriel de Wali? On aurait donc tort de les considérer comme des faux dieux. Ils ne sont en fait que de mauvais alliés, des alliés incapables de se montrer efficaces et d'assumer le rôle de protection et de secours qu'ils doivent à leurs partenaires humains quand la nécessité s'en fait sentir. Tel est d'ailleurs contre eux l'argument coranique central et le reproche qui leur est fait. On voit bien par là même combien la parole coranique reste ancrée dans la socialité de son milieu, à laquelle elle ne saurait déroger en rien. On perçoit par conséquent l'intérêt qu'il y a à se livrer à cette sorte d'archéologie du sens en rapportant les mots du Coran, autant que faire se peut, à l'anthropologie de leur société. Concernant une formule coranique comme celle du Rabb el-Bayt, dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'autres de ce type, il nous paraît tout à fait essentiel de travailler à retrouver les images mentales complexes qui se cachent derrière les mots et qui renvoient non à une religion détemporalisée, ni à une idéologie qui se prendrait pour une vérité éternelle, ni à quelque universalité que ce soit, mais à un état de société et à une histoire qui ont été vécues par les hommes du passé. Il est donc affligeant de rencontrer, à propos de ces expressions si lourdes de sens induits, des traductions aussi banalisantes et insignifiantes que le Seigneur du Temple, pour Rabb el-Bayt de la sourate 106. Il va de soi qu'une approche du Coran telle que nous la préconisons ne saurait aller sans que la traduction ne soit accompagnée d'un très lourd apparat critique qui s'interroge constamment sur les arrière-plans de société chaque fois qu'il est possible de prendre vue sur eux, que ce soit d'ailleurs ceux de la période initiale ou ceux des exégèses postérieures. Chaque lecture s'inscrit en effet dans sa propre temporalité. Il faut donc absolument éviter de tomber dans l'anachronisme de lecture croisée qui prétendrait expliquer le passé révolu par le futur advenu. Aussi faut-il en revenir au premier espace d'expression du Coran pour comprendre par quel retournement de sens la thématique empruntée de la création biblique cherche à s'acclimater et à se mettre en phase avec son imaginaire d'accueil, celui de la société des tribus. Il est remarquable de constater que lorsque commence à se dire ce qu'on pourrait appeler la Genèse coranique, c'est d'abord exclusivement de l'homme qu'il est question. Ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas d'Adam, en aucun cas. Adam est une figure très secondaire et d'apparition tardive dans le Coran. Il s'agit de l'homme que l'on pourrait dire prototype, le nomade d'Arabie, celui qui, plus que tout autre, a besoin de l'appui divin pour que tombe sur son terrain de parcours la pluie qui le fera vivre, lui et ses troupeaux. Le début de la sourate 87, dite du Très-Haut, l'Allah, est caractéristique à cet égard. Encore faut-il parvenir à décrypter et à renvoyer sa formulation très lapidaire à la matérialité de son contexte. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, est-il dit, celui qui a façonné, khalaqa. La tradition habituelle s'est créée, mais la traduction habituelle ne rend pas compte de l'image qui est le découpage d'une pièce de cuir, donc un façonnage. qui a harmonisé sa voix, et là il s'agit des différentes parties du corps, celui qui a donné juste mesure, qaddara. Alors là, le mot peut se comprendre de différentes façons. Ça peut être le temps de vie imparti à chacun, mais ça peut être aussi la mesure de tout ce qui est utile, tout ce qui règle la vie des hommes, que ce soit temporel, comme le temps astral, la spatialité, la mesure des distances sur les pistes du désert, ou que ce soit quantitatif, la répartition de la subsistance entre les hommes, qui leur est donnée par la divinité. Et glorifie celui qui t'a guidé, Hada, terme fondamental, car sur les pistes du désert, nul ne saurait se passer de guidance s'il veut arriver à bon port, sinon c'est la mort. Le verset 4, qui termine avec le suivant, la courte séquence, nous renvoie au paradigme de l'homme étalon du Coran, parce que vous allez voir à quelle image ça nous renvoie, glorifie ce Seigneur qui a fait sortir le pâturage. Donc on voit bien que ça renvoie à l'homme type du désert. Il s'agit évidemment de la pâture des chameaux qui surgit d'une terre complètement minérale lorsque la pluie sera tombée. Il est remarquable que ce soit cette puissante image pastorale qui se dise avant toute représentation de la construction complexe de la terre et des cieux. Dans ce passage ancien, on peut dire que l'ordre de la Genèse biblique se trouve, pour ainsi dire, inversé, comme pour répondre à une impérieuse nécessité locale, celle de se représenter la survie de l'homme dans les conditions les plus difficiles, celle de la vie au désert. Ce n'est pas par hasard que la création coranique se dit d'abord de cette façon. Répondant aux contraintes de son terrain physique et anthropologique, elle place l'homme au centre, se focalise sur lui. Dans le monde tribal, c'est la survie du chef de famille, chef de parenté, qui est toujours la préoccupation centrale. Le reste, tout ce qui sert à faire vivre le groupe humain, intervient et fonctionne comme un adjuvant. Et je pèse mes mots en disant cela. C'est le terme coranique « tasrir » mis à disposition, qui présente de façon explicite cette servitude due à l'homme par son cadre de vie. C'est à votre service que sont mis la nuit et le jour, le soleil et la lune, s'écrit le verset 12 de la sourate 16. C'est aussi au service des hommes que la divinité fait couler l'eau dans les circuits d'irrigation des oasis Anhar, promesse de récolte assurée. Sourate 14, verset 32. Finalement, tout ce qui est sur la terre n'a été créé que pour être mis à la disposition exclusive des hommes de tribu d'Arabie et de ce qui leur fait besoin. Aussi bien est-ce encore Allah qui empêche le ciel étagé de s'effondrer sur la terre. Le ciel ne tombera pas sur la tête. Cette focalisation sur la survie de l'homme dans son environnement spécifique et le fait que la divinité mette à son service l'ensemble de la création ne fait donc que répercuter une fonctionnalité sociale. On peut dire aussi qu'elle signe une origine. Ce faisant, elle ne manque pas de répondre aux phobies collectives qui hantaient ces populations, comme celle de la disparition brutale du groupe auquel elles appartenaient. Le Coran ne manque pas d'ailleurs de jouer sur cette phobie en mettant en scène des histoires terrifiantes de peuples disparus. L'un des plus typiques est un récit local, celui des Samoudes, représentation mythique des Nabatéens historiques de Hégra, l'actuel Madain Saleh, dont les monumentales installations creusées dans les chicots gréseux qui parsèment la plaine ont fortement impressionné les populations du cru. Ce qui est pris dans le Coran pour d'orgueilleuses demeures, voulant se pérenniser au-delà d'une vie d'homme et donc au défi d'Allah, ont conduit ce dernier, selon le Coran, à faire disparaître ce peuple. Pour conclure sur le rapport très utilitariste et très ciblé de la jeunesse coranique à ses bénéficiaires humains, on pourrait dire que le Coran s'inscrit dans une optique totalement anthropocentrée. Mais il ne s'agit évidemment pas de croire y découvrir un humanisme à notre manière. Ce qui se donne à considérer, c'est l'opportunité purement pratique selon laquelle l'allié exclusif que le Coran propose aux hommes de tribu est le seul à même, et cela en toutes circonstances, de garantir la survie matérielle et la prospérité de leurs groupes tribaux dans un environnement qui est le leur et qui ignore encore tout des horizons futurs de l'islam expatrié d'après. Revenons-en maintenant aux raisons pour lesquelles les Mécois sont invités à rendre culte au Seigneur de leur cité. Foin d'une quelconque spiritualité qu'on ne saurait attendre dans le contexte d'une économie de survie. On va voir que ces raisons sont uniquement pratiques. Le dernier verset de la sourate 106 évoque en deux mots la protection divine qui épargne à cette cité non agricole la faim, joie, c'est-à-dire la famine, en lui donnant pouvoir de s'approvisionner sans encombre. De même, la divinité locale épargne-t-elle à ses habitants la peur, khaouf, autrement dit celle des attaques de tribus hostiles. Le verset initial de la sourate est un peu plus prolixe sur un autre avantage. Nous allons nous y attarder un peu. C'est en effet le Rab, le Seigneur de la demeure mécoise, qui est censé protéger, au-delà du périmètre de leur cité, les voyages de ses alliés tribaux. Il ne s'agit évidemment pas de tourisme, mais de trajets caravaniers utiles. Le Coran cite deux voyages, celui de l'hiver et celui du Saïf. Arrêtons-nous sur ce dernier mot pour bien en préciser le sens, car il a fait l'objet de nombreuses traductions totalement impropres. Chaque arabisant sait que le mot Saïf correspond à l'été en arabe moderne. Il faut se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas en arabe coranique. L'été d'Arabie, aujourd'hui comme hier, c'est la période de la chaleur extrême. Cette période porte d'ailleurs le nom spécifique de Qaïd, le Maqiz. C'est le moment durant lequel les hommes et leurs troupeaux, s'il s'agit de nomades, campent sans en bouger à proximité immédiate d'un point d'eau. Dans la grande steppe syrienne, c'était jusqu'il y a peu la période où les grandes tribus du plateau central d'Arabie remontaient parfois sur plusieurs centaines de kilomètres vers le nord pour établir leurs campements estivaux au bord de l'Euphrate, en attendant que s'efface la canicule. J'ajouterai d'ailleurs, continuant dans ma digression, que c'est aussi pour cette raison que le dieu coranique a été dit le seigneur de Sirius, Rabbi Shi'ara, dans un bref verset de la sourate 53-49. Il ne s'agissait nullement, comme cela a pu être écrit, et ça, je ne sais pas moi, là, je ne l'ai pas écrit, que les anciens arabes aient rendu un culte quelconque à cet astre brillant de la constellation du grand chien, la canicule. Il s'agissait de dire que le dieu coranique, désormais déclaré maître du temps et des saisons, jouait un rôle utile pour les hommes en ne laissant pas Sirius rester au firmament de la nuit lorsque son temps serait passé. Rappelons au passage que dans l'ancien calendrier lunisolaire des Arabes tribaux, le mois de Ramadan, dont le sens connote le Ramad, la chaleur extrême ou le sol brûlant sur lequel on ne peut pas poser un pied, se situait précisément au moment du solstice d'été, celui justement du règne céleste de Sirius. Cela exclut évidemment qu'il eût pu faire partie des lunaisons que le Coran, à la suite de la tradition locale antérieure, continue à considérer comme sacrées, hurum, c'est-à-dire porteuses d'interdits collectifs, comme celui de combattre ou d'exercer une vengeance. Pour en revenir à la sourate 106, on peut dire que le Seigneur pré-biblique du Coran n'avait pas encore dit qu'il était créateur. Ce rab local aurait donc eu mission de sécuriser les parcours des hommes de tribu qu'il protégeait, en l'espèce la tribu mécoise de Mahomet. Cela impliquait que ce seigneur divin ait été vu comme exerçant pleinement une fonction de guidance. Sur un terrain aussi hostile aux voyageurs que celui de l'Arabie aride, tout déplacement était conditionné par la capacité que l'on avait d'arriver à destination. Quand vous avez en arabe un mot de déplacement, dans le même mot, vous avez associé, dans le même mot, pas en deux mots, le déplacement et la destination. Et ce n'est pas par hasard. Il ne faut pas oublier que se perdre dans un milieu désertique, c'est mourir, je l'ai déjà dit. Les voyages des Mécois étaient sans doute récents, étant donné l'allusion émerveillée qu'il aurait faite dans le verset de la sourate 106. Ces voyages auraient conduit les Mécois en hiver vers le sud, aux limites du Yémen, dans la zone de Najran, donc à la frontière, la partie sud de l'Arabie saoudite actuelle, sud-ouest, puisque la chaîne montagneuse qui borde la mer Rouge dans la partie sud-ouest de la péninsule interdit tout trajet côtier. Donc ils sont obligés, pour descendre vers le sud, de passer à l'est de la barrière montagneuse. En ce qui concerne, quand on voyage d'été, quand on voyage qui n'est pas celui de l'été, quand on voyage du Saïf, il n'est pas celui de l'été, mais si on doit situer la période, on va dire que c'est la période du printemps avancé, je dirais, autour de l'équinoxe. Donc ils peuvent partir de la Mecque au moment de l'équinoxe, remonter vers le nord et revenir avant que les grandes chaleurs ne s'abattent. Les Mécois auraient alors suivi non pas la route intérieure qui passe par Médine, puisque l'ancienne route de l'encens passait à l'est, c'est pour ça qu'elle était toujours libre, elle passait à l'est de la chaîne côtière, alors que si on passe à l'ouest de la chaîne côtière, c'est plus proche quand on est à la Mecque, mais cette route ne devient accessible qu'au moment saisonnier où les grands ouèdes ne risquent plus de couper la piste, puisque vous avez des hauteurs qui parfois atteignent 2000 mètres, et là, la côte est très proche, donc vous avez des ouèdes absolument monstrueux qui descendent, et qui sont, si vous avez lu les Piliers de la Sagesse, vous avez des descriptions de Laurence sur cette côte ouest de l'Arabie, donc au nord de la Mecque, qui sont tout à fait intéressants à lire. Quiconque s'intéresse au trajet supposé de Mahomet et des siens aurait d'ailleurs intérêt à se renseigner très précisément sur les conditions matérielles des voyages et sur la difficulté et la longueur des itinéraires étant donné les moyens de l'époque. De la Mecque, que ce soit vers le nord ou vers le sud, il fallait au bas mot un mois de marche dans chaque sens, au pas des chameaux. Oui, d'accord. je vais essayer d'abréger. Et plus encore en allant vers l'Irak. Revenir à la réalité du terrain permettrait aussi de ne pas prendre pour argent comptant des légendes historiographiques que l'on répète pourtant à l'envi. Ainsi en va-t-il de celles qui montrent les partisans présumés persécutés de l'inspiré mécois incompris allant se réfugier auprès du négus éthiopien qu'ils accueillent à bras ouverts avant qu'un peu plus tard, ils ne fassent tout aussi facilement le trajet en sens inverse. C'est totalement impossible que ce soit passé comme ça. Bon. Je vais terminer par une autre légende qui est celle des prétendues idoles de la Mecque. Les prétendues idoles de la Mecque, le coupable est à rechercher parmi les historiographes du début du IXe siècle qui s'imaginent que toutes les tribus d'Arabie allaient déposer à la Mecque des idoles. En fait, si on examine la topographie mécoise, ce que l'on peut dire, c'est que ces idoles sont une invention postérieure, on pourrait dire, pour essayer de mettre en scène Allah dans une bataille des dieux, et ce serait une manière de dire que Allah a triomphé de l'idolâtrie. Mais c'est très probablement une légende. Ce qui se passe sur le site mécois, ce ne serait pas une accumulation d'idoles, donc là j'accélère un petit peu, il faut finir rapidement. Je dirais que le site mécois est clairement bétilique. D'ailleurs, il est toujours aujourd'hui à l'insu des pèlerinants actuels, des pèlerins actuels qui n'en savent plus rien. Sinon, que signifierait le rituel de la tournée, le tawaf, la pierre noire vénérée, probablement un basalte local et non pas la pierre céleste de la légende musulmane, est basse et maçonnée à l'angle est du côté du soleil levant. La pierre bienheureuse est maçonnée au sud du côté du Yémen, qui reçoit la mousson d'été, donc qui est un pays qui a une végétation permanente. Et les pérégrinants anciens tournent en partant de l'angle est, en passant vers le nord, comme s'il voulait entrer par effraction dans le circuit de l'astre solaire sans se faire voir au départ. Et grâce au sacrifice final sur la hauteur de Marwa, parce que le sacrifice ancien avait lieu dans la Mecque intramuros, à l'est de la Kaaba, où il y a une course de va-et-vient, en donnant du sang, c'est-à-dire en sacrifiant, non pas les chameaux qui n'existent pas sur place, non pas les moutons qui n'existent pas sur place, mais des chameaux. Le sacrifice mécois était un sacrifice de grand bétail, l'animal de référence du pastoralisme local. Il n'y avait pas de moutons sur place. Aujourd'hui, ils viennent de Nouvelle-Zélande. Ce n'était pas le cas, évidemment. Donc, il s'agissait de tenter de forcer l'astre terrible, l'astre solaire, de laisser la pluie tomber quand la saison serait venue, comme en réponse au sang versé qui lui avait été offert par avance. Je vais m'arrêter là.